Bonjour à tous et bienvenue sur le 4-9 en transition, l'émission qui vous parle de transition écologique dans le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de rénovation d'habitat et de transition énergétique avec l'association Alizé. Cette semaine, on continue un petit peu dans la construction et dans l'isolation des bâtiments avec Nicolas Oudoff qui nous parle de sa petite boîte qui vient de monter il y a quelques temps qui s'appelle Isole en paille. Cette initiative nous parle d'isoler vos bâtiments avec de la paille, un truc super écolo et en plus réutilisable, recyclable. Enfin bref, voilà, il va nous raconter tout ça. Bonjour à toi Nicolas
et bienvenue. Bonjour, merci.
Alors raconte-nous, comment est-ce que tu es arrivé dans le Maine-et-Loire ?
Je suis arrivé il y a 4 ans parce que en fait ma femme est originaire de la région, elle vient des Mauges et la volonté était de se rapprocher de la famille. Et donc j'ai suivi naturellement ce mouvement. Et il se trouve que je suis installé à côté de Gênes aujourd'hui et que on vient d'acheter une maison. Donc complètement implanté en Maine-et-Loire.
Et ta maison, elle est isolée en paille ou pas ?
Non, j'ai acheté du bon tuffeau local vieux de 600 ans.
Ah ça c'est bon, ça c'est bien. Tu t'es bien implanté dans la région en tout cas.
Ouais, je me suis mis dans l'ambiance.
C'est ça. D'où elle est venue cette idée de faire de l'isolation en paille ?
Alors tout a commencé dans le sud de la France où j'ai fait des études d'ingénieur dans la thermique du bâtiment et j'étais en apprentissage avec une petite entreprise du bâtiment qui avait pour vocation de rénover le patrimoine gardois avec l'utilisation de matériaux tels que la pierre sèche, la terre crue et moi je devais amener la particularité d'amener la paille et la construction bois. Déjà l'idée a été ancrée assez les graines ont été semées assez tôt. Mais ces graines, il a fallu les transformer au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des projets où je me suis rendu compte de plusieurs manques dans le bâtiment pour faire avancer la filière. Et une des réponses pour accompagner la filière, c'était de trouver une façon de permettre à tout le monde de s'approprier la paille comme isolant. Donc une des façons de faire, c'est donc de faire comme je fais aujourd'hui, vendre de la botte de paille pour les bâtiments, palettiser. De manière à ce que tout charpentier puisse en commander tel qu'on achèterait de la laine de verre chez Point P.
Oui, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je veux construire en paille sans passer par toi, il faut que je trouve un agriculteur qui me fasse des bottes de paille à la bonne taille. Et en plus, ça se fait qu'en été.
C'est
et
ça.
Si j'ai pris du retard sur mon chantier, je l'ai dans l'os, quoi.
Voilà. Historiquement, on est vraiment parti de là et que la construction en paille, c'est la botte de paille paysanne. On part d'une botte qui est faite sur champ. Et c'est comme ça que le réseau français de la construction en paille s'est construit. Donc c'est un réseau national qui fédère autour de règles professionnelles qui permettent d'assurer de manière décennale les bâtiments qu'on va isoler en paille. Maintenant, cette botte de paille, si on veut construire en plein hiver, il faut avoir anticipé la saison et avoir l'agriculteur sous la main qui peut nous fournir en quantité. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec la réglementation en cours et les bâtiments qui deviennent de plus en plus grands, on a une demande de plus en plus forte avec une standardisation qui doit suivre. Et si on veut permettre de continuer à isoler en paille sur des grands bâtiments, il faut professionnaliser cet approvisionnement et permettre justement que n'importe qui puisse isoler en paille. Voilà ma vocation.
D'accord. Mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant sur toute la France ou pas encore ?
Pas assez.
C'est sûr.
Alors, on va dire, dans le monde de l'isolation, il y a deux familles. Il y a la famille des biosourcés, où on va retrouver par exemple la fibre de bois ou la ouate de cellulose. Et ensuite, il y a la famille, on va dire, des isolants qui sont du marché de masse, les isolants de la pétrochimie, qui sont par exemple la laine de roche, la laine de verre, les plaques de polystyrène.
C'est ce qu'on a pratiquement, c'est ce qu'on nous propose à la base, quoi.
C'est ça. Et 75% de l'isolation aujourd'hui est plutôt orientée, produits de marché de masse tels que la laine de roche. Et les biosourcés ne représentent aujourd'hui que 10%, alors qu'on a une envie de pousser jusqu'à ces 25% et que la réglementation y pousse aussi. Et la paille, là-dedans, c'est un épiphénomène. C'est moins de 1% aujourd'hui des bâtiments isolés en paille. C'est souvent des autoconstructeurs. C'est aujourd'hui aussi beaucoup de bâtiments publics, des crèches, des groupes scolaires, des lycées.
Ah oui, ça se développe là-dessus aussi ?
Oui, et c'est aussi des nombres de mètres carrés qui grossissent par projet de manière assez importante. Donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de projets, mais en tout cas, ils sont de plus en plus grands. Et pour accompagner ces grands projets, il faut une filière organisée. Et c'est là clairement où on a besoin de se fédérer au niveau artisan pour accompagner la transition énergétique écologique en cours.
D'accord. Du coup, quand on parle de... Enfin, moi, pour moi, ma représentation, en effet, elle est sur les autoconstructeurs, elle est sur... je suis autoconstructrice, donc forcément, j'ai ça en tête, même si j'ai pas isolé en paille à l'époque où j'ai fait ma maison. Tu vois, où je pense forcément avec une finition en intérieur, avec la chaux, etc. Mais quand tu me parles de bâtiments comme des crèches, etc., ils vont isoler en paille, mais après, ils vont refaire de la traditionnelle, c'est-à-dire avec du placo, etc. Donc, le rendu sera exactement comme un autre bâtiment.
Un isolant reste un isolant. C'est-à-dire que la paille, on en parle beaucoup parce qu'il y a un ancrage territorial qui est affecté beaucoup et une histoire qu'on raconte avec le bâtiment. N'empêche qu'un isolant a pour vocation d'être caché derrière des revêtements, d'être protégé par des revêtements mis à l'abri. Et du coup, une fois plaqué ou enduit, on ne le voit plus.
D'accord. Oui, donc en fait, c'est quoi la particularité ? C'est que, en effet, il faut avoir une forme particulière pour l'isolation et que du coup, c'est pas forcément comme tout travaux, ça doit se travailler en amont sur les plans.
Oui.
Ça prend de la place, en fait, une botte de paille.
Oui, oui. Et on va dire qu'aujourd'hui, on a toujours adapté la structure bois à la forme de la botte de paille, au canal de la botteleuse qui passe sur champ. Et si on veut pousser à la standardisation, à l'utilisation de plus de paille, que tout charpentier fasse la démarche de remplacer un isolant moins local par de la paille, ça, c'est justement de l'accompagner dans la standardisation du format qui lui permet, lui, de passer moins de temps à faire des découpes et à poser très simplement une botte, comme si c'était une laine de roche qu'on déroule dans un mur. Et ça, les charpentiers, ils sont très favorables parce que de toute façon, ils savent travailler avec des biosourcés parce qu'à la base, ils travaillent beaucoup de bois. Donc, c'est mes premiers clients qui sont sensibles à l'utilisation aussi d'un isolant qui s'apparente à du bois et qui a un fort potentiel de stockage carbone pour permettre de freiner un petit peu ce réchauffement climatique.
Qu'est-ce qui est intéressant en termes d'isolation ? Enfin, je pense au côté respiration d'une maison. Enfin, moi, j'habite une maison bois, donc forcément, tu vois, tout ce qui est respiration, c'est quelque chose que tu étudies quand tu construis ta maison. La paille, elle a ce supplément d'âme par rapport à d'autres isolants qui bougent complètement.
Ouais, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on isole un bâtiment. Il faut toujours tenir en compte que un bâtiment, ça respire. On ne peut pas partir du principe qu'on ferme un mur et il ne va rien se passer. Il faut toujours se dire que potentiellement, s'il y a un gramme de vapeur d'eau qui traverse un revêtement, il faut qu'il puisse ressortir de l'isolant de l'autre côté du revêtement, en tout cas qu'il y ait un échange et qu'il n'y ait pas de concentration d'humidité. Dans toute passoire thermique qu'on peut retrouver, que ce soit en béton ou en bois, on va retrouver des traces de moisissures qui sont des points où en fait ça va pas être assez ventilé, où on n'a pas assez pris en compte en fait la respiration des murs. Et la paille est naturellement laisse passer la vapeur d'eau. Et si on joue sur les revêtements intérieurs extérieurs, on peut permettre justement que la maison respire vers l'extérieur et que la concentration d'humidité ne reste pas dans les murs et permettre d'avoir une maison confortable avec une hygrométrie régulée et de le ressentir au quotidien de manière assez naturelle et de se sentir bien.
Donc, au même titre que n'importe quel isolant issu de la pétrochimie dont on a l'habitude d'avoir dans nos murs.
Oui, et en fait, ce qu'on recherche dans un isolant, c'est ça va pas être que de se s'isoler du froid, mais aussi de s'isoler du chaud. Et pour atteindre ça, c'est pas simplement en isolant avec le premier isolant qu'on trouve en supermarché, c'est aussi de rechercher sa densité, sa masse volumique, d'aller voir comment, à travers la matière qui le compose, il va retenir l'onde de chaleur qui va le traverser. Parce que quand on regarde en laboratoire les différents isolants, on les teste tous de la même manière au froid, mais on ne les teste pas forcément au chaud. Et il se trouve que les matériaux biosourcés en général résistent très bien aux chaleurs d'été. Et c'est ce qu'on veut aussi dans les maisons en bois qui ont une faible inertie, c'est que justement elles peuvent retenir à travers la masse de l'isolant, retenir cette onde de chaleur et permettre d'évacuer ce surplus de chaleur la nuit en ouvrant les fenêtres.
C'est parfait en fait, il nous faut tous ça en fait.
On nous met tous ça.
Allez, demain on met tous de la paille dans nos murs. On fait notre première petite pause musicale. On va écouter le choix de Nicolas, notre invité. Ce premier morceau, c'est L'odeur de l'essence de Orelsan. Tu me dis tout de suite après pourquoi tu l'as choisi.
J'ai leur fermé en watté la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes allumés. Mais l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Voilà, donc comme vous l'avez écouté, un morceau bien choisi je crois, pour parler de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi tu l'as choisi?
Alors notamment parce que je l'ai vu récemment à la télé, aux Victoires de la Musique. Et sa prestation était vraiment impressionnante. Il a cloué le bec, je pense, pas mal de monde dans ses 5 minutes de présentation de la situation actuelle. Je ne suis pas forcément raccord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve que ça plante bien le décor et que ça permet de se repositionner dans le monde dans lequel on est.
Bon alors, revenons-en à notre isolation paille. Donc là, On a abordé le fait que t'es arrivé chez nous, tu t'es dit tiens, ce serait sympa parce que t'as étudié beaucoup la situation et que quand même, il y a quand même des ressources, je vais pas te dire inépuisables, mais pas loin pour faire de la paille en ce moment ici. Et on sait aujourd'hui que maintenant, c'est super pour tous les bâtiments, dit classique ou autoconstruction ou bois ou n'importe quel matériau, de pouvoir isoler en paille. On est d'accord? Jusque-là, j'ai tout bon?
Tout va bien.
Donc si je veux aussi monter ma petite carter, ou je peux le faire sans problème en tapant et en mettant de la paille. Sauf que peut-être la carter, c'est un petit peu différent quand même.
Oui, c'est une technique un peu hybride qui mélange plus la terre crue que l'utilisation de végétaux. Après, c'est pas forcément un monde que je maîtrise.
D'accord, ok. Bon, en même temps, il n'y a pas tant de carter que ça. Il n'y a pas tant de carter que ça sur le Maine-et-Loire non plus, en tout cas, non. À ma connaissance. Comment toi tu fais pour avoir de la paille toute l'année à pouvoir donner? Parce que voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, si je veux isoler en paille et que je veux faire ça avec mon agrès du coin, il faut que j'ai des bottes à la bonne taille, c'est-à-dire les rectangulaires, pas les balles de foin, pas les balles de paille qui font je sais pas combien, 1m20 sur 1m60 de haut. Ouais. Là, ça marche pas, on est bien d'accord.
Non. Alors, une des réponses à ce problème de la saisonnalité, c'est de gérer le flux à la place du paysan. Et de lui permettre en fait de produire de la paille comme il sait faire, en grande quantité, avec des bottes de paille qui font des grands volumes, et de retraiter tout au long de l'année ces grands volumes en les redécompactant et en les recompactant au bon format qui correspond aux standards du bâtiment.
D'accord.
Et donc ça nécessite une usine.
D'accord.
C'est une transformation de matière, de fourrage, qui demande tout un process logistique, qui nécessite d'avoir un réseau de paysans qui savent faire de la belle paille, et grosso modo ils savent tous faire de la belle paille, et derrière c'est à moi de retraiter et de gérer justement les départs pour les charpentiers qui ont un cahier des charges et un délai à gérer au niveau de leurs approvisionnements aussi, parce qu'ils cherchent pas forcément à laisser les palettes stockées dehors au soleil pendant 3 mois. Ils veulent avoir un flux tendu qui leur permet de moins stocker et de gagner en productivité chez eux aussi.
D'accord. Donc toi, t'as un immense bâtiment pour mettre autant de paille chez toi. Ça doit être immense.
Ouais, parce que dès qu'on parle d'isolant, on parle beaucoup en volume.
Bah oui, c'est ça.
On stocke de l'air. On vend pas de l'air avec de la paille, on vend quand même de la matière. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'air. On est sur une densité, pour vous donner un ordre d'idée, de 100 km3. C'est pas énorme. Du coup, ça fait tout de suite des grands volumes. Et là, je viens d'investir une ancienne briqueterie à côté de Trémont, dans la commune de Trémont, proche de Vier. Et l'idée, c'est d'utiliser ce couvert, ce bâtiment-là, qui servait à faire des briques de terre cuite, de le retransformer en usine à mouler des bottes de paille pour l'isolation des bâtiments.
D'accord. Donc toi, tu as une machine à l'intérieur qui va remettre la paille dans le bon conditionnement exprès pour l'isolation.
C'est ça.
D'accord. Donc un gros boulot, j'imagine, quand même.
Ouais, c'est mon quotidien. Cet après-midi, je vais y retourner. Ce qui est bien, c'est que quand on voit que ça marche, on peut commencer à embaucher. Et il se trouve que j'ai ma première recrue qui vient d'arriver. Super. Et qui me libère un petit peu d'énergie pour venir à des interviews radiophoniques.
Ah, formidable, merci pour nous, c'est gentil. Merci à lui d'être venu jusqu'à toi. Là, pour le coup, si tu dis que ça commence à bosser, t'as quoi comme type de chantier, par exemple, en ce moment, dont tu pourrais nous parler, sans que ce soit...
Oui, je peux en parler. Il y a un groupe scolaire, notamment, qui se construit à Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud de Rennes, qui va être fait avec un charpentier de la Sarthe. Et là, c'est 130 palettes, c'est 50 tonnes de paille à produire. On va dire 1500 mètres carrés de mur à préfabriquer. Et donc ça, c'est en cours en ce moment. Un autre chantier qui va arriver en Mayenne, à Laval, le dojo qui va être construit à Château-Gontier, qui va servir pour les JO de 2024.
Waouh !
Va être isolé avec mes bottes.
Et
il faut absolument que ce soit construit dans le délai qui est imparti avec le créneau 2024.
Oui, en effet.
Et ça, c'est des choses un peu sympas. Et puis dans les tuyaux, l'idée, ça va être de rentrer aussi chez les promoteurs immobiliers. Donc je fais une botte de paille qui fait 22 cm d'épaisseur, qui permet au promoteur de se l'approprier comme n'importe quel isolant du bâtiment.
Ouais, parce que c'est l'épaisseur de base, 22 cm, non ?
Voilà, 22 cm, c'est la, on va dire l'épaisseur maximum que les constructeurs ossature bois peuvent se permettre dans leurs machines de robotisation de fabrication de murs.
D'accord.
Qui vont gruter ensuite sur chantier une fois le mur complètement fermé. Et en fait, ça réduit l'emprise au sol, parce qu'une botte de paille à la base fait 36 cm et ça a beaucoup freiné son utilisation dans le bâtiment. Et mon objectif, c'est à travers ce changement de format, réduire en 22 cm et toujours garder une résistance thermique
optimale
avec l'association d'autres isolants, permettent à s'en servir comme vrai puits de carbone en local sur des projets très grands. Typiquement, sur Angers, il y a une ZAC qui va être faite avec plusieurs îlots où ma botte de paille en 22 cm va être utilisée. Et donc ça, c'est plusieurs dizaines de logements qui vont être faits à 2023.
D'accord. Bah, disons, ça crée, t'en as quand même des jolis, des projets. Donc là, en fait, en substance, comment ça se passe? Parce qu'une fois que t'as conditionné ta paille, elle peut pas partir tout de suite sur le chantier. Enfin, faut pas qu'elle prenne la pluie, quoi. On est bien
voilà.
D'accord.
Ouais, il faut
arriver
gérer
au bon moment. Est-ce que c'est ça le plus dur?
L'histoire de la logistique, c'est de gérer déjà les intempéries, et en tout cas, qu'il n'y en ait pas. En tout cas, qu'il n'affecte pas la paille. Et du coup, une des alternatives pour les constructeurs ossature bois, ce qu'ils font déjà, c'est de travailler au sec, en atelier, de faire les murs, de les clouer, et ensuite, que même
ah oui.
qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les grues posent les murs et que ça n'affecte absolument pas ce qui
d'accord.
se passe à l'intérieur.
Oui, donc la préfabrication des murs. Ah bah oui, bien sûr.
Voilà, aujourd'hui, on appelle ça aussi de la construction hors site.
Oui, c'est
donc ça.
Ça
peut être l'utilisation de modules complets type, on va dire, Algeco qu'on empile. Algeco plus isolé bois paille ou avec d'autres biosourcés. Et voilà, les machines à gruter sont suffisamment performantes aujourd'hui pour à peu près gruter tout ce qu'on veut.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, si quelqu'un veut rénover sa maison, je pense à un truc là comme ça, mais est-ce que toi, tu fais un conditionnement qui est pour les murs, mais je pense à de l'isolation pour les toitures qui est différente, qui est souvent en rouleau, qu'on déroule, qu'on fait dévaler la pente de son toit,
ouais.
ce genre de choses, c'est comment ça se passe ?
Méfiez-vous, n'en faites pas trop dérouler. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais quand on met un isolant en rouleau très peu dense, il va avoir du mal à résister aux ondes de chaleur l'été. Donc si vous voulez aménager vos combles et que vous considérez qu'une laine de 20 cm va suffire avec peu de densité, je vous invite à creuser ce sujet-là.
À poser les questions.
Ensuite, au niveau toiture, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que l'isolation thermique par l'extérieur, parce qu'il faut potentiellement défaire la toiture pour la refaire. C'est quand même des gros travaux. Donc, ça ne se fait pas juste parce qu'on a envie d'isoler. Ça se fait en général quand la couverture doit être faite. Et sinon, ça peut se faire par l'intérieur si l'étanchéité est prévue pour et le chevronnage... bien pensé pour l'utilisation, mais voilà, tout cas de figure est quand même doit être réfléchi à chaque fois par l'artisan ou la personne qui la pose. C'est sûr que la botte impose un format, et du coup ma volonté est de pousser un sens, mais je pourrais pas répondre à toutes les questions, et si je réponds déjà à 50% des possibilités, ce sera déjà très bien. Donc
tu as quand même une forte capacité d'adaptation sur le matériau et sur ce qu'on te demande de pouvoir faire.
Oui, alors ça typiquement c'est géré par on va dire le réseau français de la construction en paille, qui a créé un manuel, un guide, on appelle ça des règles professionnelles, sur lequel on peut se former pendant une semaine, accompagné par deux formateurs. C'est toujours un binôme de formateurs, un qui va être plutôt du chantier, un plutôt de la conception, et ce binôme vous accompagne sur une semaine sur l'utilisation de la botte de paille, et c'est plutôt à titre aujourd'hui pour l'utilisation pour permettre aux charpentiers de s'approprier la botte, mais ça peut aussi aider des autoconstructeurs potentiellement à construire leur maison. Et l'idée, c'est justement de comprendre les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec un matériau, avec un format donné et des fibres. Et c'est une démarche et ça s'apprend.
On fait une deuxième petite pause, cette fois-ci elle n'est pas musicale. On va retrouver nos deux voyageurs de l'Anjou qui sont partis sur leur tour d'Europe avec leur camion Marcel. Tu vas voir, c'est sympa. Ils sont donc, je ne sais pas où, on va découvrir. C'est la petite carte postale de l'émission et on se retrouve juste après. La, la, la.
La, 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 la. Salut, c'est Benjamin Mélanie. On part faire le tour de l'Europe avec notre vieux camion de pompier Marcel, que l'on a aménagé. À travers ce voyage, nous partons en quête de sens, en quête de soi, à la recherche de personnes inspirantes et à la recherche des possibles. Toujours sur la côte nord de l'Espagne, entre les Asturies et la Cantabrie. On n'est jamais très loin de la mer, mais on est quand même attiré par les pics d'Europe. C'est un super gros massif montagneux.
Et donc là, on a atterri dans la région de Liébana, qui est un super bel endroit. Et c'est assez sauvage parce qu'il y a peu d'habitants. Et du coup, les pics d'Europe, c'est un espace protégé où il y a des loups et des ours bruns notamment. Et il y a des charmantes maisons qui sont composées de différents matériaux. Il y a des pierres, des briques, et elles sont souvent très colorées, avec un balcon caractéristique de la Cantabrie, entièrement vitré.
Bah, les Espagnols, ils appellent ça les galerias.
Et on dit qu'on est habitant de la vallée lorsque notre cheminée fume 200 jours par an. Et on bénéficie ici gratuitement de l'eau et de bois.
En fait, chacun peut aller servir dans la forêt.
On a visité la ville de Potes et on a rencontré Amaranta, qui a lancé une boutique de créateurs.
Paco Palacio a décidé de venir vivre à Liébana et a créé une école dans la nature appelée Beatus Ile.
C'est la première personne qui a compris l'importance de l'artisanat il y a 30 ou 40 ans de cela. Il est allé à la rencontre d'artisans du coin et a commencé à faire des ateliers pour que les enfants apprennent les savoirs traditionnels. Comment collecter les plantes, comment travailler le bois, comment faire des paniers en osier avec les personnes âgées encore vivantes à ce moment-là.
With people that are still alive at that time, he was the one who made.
C'est la personne qui nous a fait aimer cet endroit, car quand on venait, on participait à ses ateliers. C'est grâce à lui que j'ai choisi d'appeler ma boutique Beatus Ile. Il est mort d'un cancer il y a 10 ans quand j'ai décidé de venir vivre ici.
The moment I came, I decided to live here. He died.
Beatus Ile signifie béni soit celui qui fait référence à l'éloge de la vie simple et détachée de la campagne.
Amaranta nous a dit que le lendemain, il y avait une initiation à la vannerie.
Et ça tombait bien parce qu'il annonçait de la pluie ce jour-là. Et en plus, ça faisait longtemps qu'on voulait s'initier à la vannerie.
Donc on est arrivé le lendemain à 10h. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et au final, il y avait 6 personnes qui faisaient un panier un peu à leur rythme.
Quand les mets à tous, me llaman. Estoy en
el penúltimo.
Vale.
L'atelier était animé par Fray Arturo. En fait, c'est un moine à la retraite. Donc, on était vraiment dans le folklorique. Il était habillé avec sa toge ecclésiastique et avec ses sabots traditionnels. Là-bas, on les appelle los madreñes. Ils étaient utilisés avant par les agriculteurs, en fait, les paysans. Et donc, c'est des chaussures en bois avec 3 talons. Il y en a 2 à l'avant et 1 à l'arrière.
Et comme on avait seulement une matinée, on a choisi de faire un cache-pot. Et Fray Arthur nous a pas mal aidé pour qu'on finisse en 3 heures. Ce qui est bien avec les activités manuelles, c'est que même si l'on ne parle pas trop la langue, on trouve toujours le moyen de se comprendre avec les gestes.
Bon, heureusement qu'Amaranta parle pas mal de langues et elle a pu nous aider quand même.
On est reparti super content avec notre cache-pot terminé et on a aussi acheté un panier.
On doit vous laisser, on part au marché avec notre nouveau panier. Allez, va voir ailleurs si j'y suis.
Voilà. Quand tu retrouves un entrepreneur ou un chef de chantier ou quelqu'un qui s'intéresse à ça, mais qui en même temps te dit oui, mais on a toujours fait autrement, je vois pas pourquoi je changerais. C'est quoi ce que tu lui dis pour qu'il change d'avis ?
Pas grand chose. Je lui laisse réfléchir. Je lui dis que c'est possible. Je lui montre que potentiellement il y a des projets qui se font juste à côté de chez lui et que s'il est suffisamment curieux de s'y intéresser, j'espère qu'il le fera. Je suis humain aussi. Hein, j'ai 24 heures dans ma journée. J'ai pas vocation à vouloir convaincre tout le monde. S'il y en a qui mettront plus de temps que d'autres à le faire, bah, c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Et puis, bah, en tout cas, le mouvement est lancé. La réglementation environnementale de 2020 est en place depuis le 1er janvier. D'ici 2030, il va falloir que tout le monde s'y mette. Donc c'est pour ça que les promoteurs s'entraînent, on va dire, sur des îlots aujourd'hui à Angers. C'est parce que derrière, ils savent que les bâtiments de demain seront faits